rendre meilleur. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez étourdi hein, par nature. Il m'arrive beaucoup de stress inutile. Et j'ai essayé de prendre quelques jours de vacances cette semaine. Et mardi, en allant dans le TGV, en fait, juste une petite remarque. Quand vous avez des enfants, c'est moins bien le train. Enfin, c'est moins bien que quand vous êtes célibataire et vous le prenez tout seul, parce que vous avez tous les bagages, les enfants chargés et tout ça, et vous pensez un petit peu à « waouh, est-ce que la petite va pleurer ? Comment va aller le garçon ?» Et même si vous avez une épouse géniale qui pense à 99,9% des choses, il vous reste quand même un tout petit chose à penser. Déjà, c'est à vous-même. Je suis un peu fort là, par contre, ouais, dans les retours. Et j'ai oublié mon portable dans le TGV. C'est bête quand même. C'est très stressant parce qu'aujourd'hui, les portables, il y a tout dessus. Vous avez vos emails, vous avez tous vos notes, tout ce que vous aviez prévu, etc. Tous les numéros de téléphone de tous les gens que vous aimez. J'ai dit, aïe. Donc l'arrivée dans le TGV, et je me suis rendu compte, mais juste une minute après que le TGV soit reparti. Et c'est trop tard, il part. On va à la gare, on va voir le contrôleur. Oui, monsieur, oui, ça arrive. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un puisqu'on sait exactement à quelle place il est, on sait exactement tout. Est-ce que vous pouvez contacter quelqu'un? Non, madame, non, monsieur. J'ai essayé de jouer la fille. Vous savez, j'ai une petite fille de 2 mois. On essaie de la mettre devant. Regardez, ayez pitié. Rien à faire. Ils n'ont pas de pitié, ces gens-là. Je suis rentré chez moi, mais avec un stress. Vous savez, ça vous gâche déjà un début de vacances. Hein. Et j'arrive chez moi et je fais localiser mon portable parce que maintenant, grâce à toutes les choses sur Internet, là, vous pouvez localiser votre portable. Je vois que mon portable est dans le TGV, je vois mon portable qui bouge avec le TGV. Je me dis, waouh. Et puis j'ai reçu un texto que je vais juste vous lire. Et ce texto, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc une personne qui a retrouvé mon portable, et elle me dit donc qu'elle va me le ramener. Alors je lui dis merci, énormément merci. Je lui dis je suis vraiment impressionné par votre droiture, votre honnêteté, madame. Et puis elle me répond, c'est normal de vous avoir aidé. J'aurais aimé qu'on fasse de même pour moi dans ce cas. J'ai envie de dire amen. Vous voyez ça? Je ne sais pas si elle est chrétienne, cette dame, mais elle a agi comme une chrétienne. Et c'est le texte qu'on lit ce matin dans Luc au chapitre 6, un seul verset. Luc 6 au verset 31, juste le verset 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Waouh ! On va le redire une fois encore pour être sûr que faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. En fait, j'étais étonné, je croyais que c'était une invention de la Bible. Oui et non. Parce que vous allez dire, mais peut-être cette femme n'est pas chrétienne et peut-être elle a ces valeurs-là. Alors du coup, je suis allé faire quelques recherches pour voir si ça existait ailleurs. Et en fait, toutes les religions en parlent, et si vous allez sur Internet et que vous tapez ces mots-clés-là, ça va vous apparaître comme la règle d'or spirituelle. C'est-à-dire que tous les philosophes, toutes les religions, tout le monde utilise à peu près cette phrase-là comme la règle d'or spirituelle. Alors du coup, j'ai voulu creuser. Et on va vous lire en quelques mots là, des auteurs très connus. À partir du moment où on a eu des écrits, puisque tant qu'il y avait l'oral, c'est difficile de savoir. Mais on a des écrits, notamment des écrits de Thalès. Vous connaissez le théorème de Thalès? Vous ne l'avez pas aimé? Ben, Thalès n'a pas fait que des maths. Il a écrit autre chose. Est-ce que c'est possible de marquer Thalès? C'était là. Voilà. Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de te faire. Regardez ce que dit Confucius. Donc c'était au niveau de la Chine. Ne faites pas à autrui ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Il y a un S qui manque, désolé. Troisième sur Bouddha. ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Regardez ici. Est-ce que c'est pareil ? Ça y ressemble. Hein. Parce que si je reprends, je vais juste dire, évite de faire aux autres ce que tu blâmerais qu'ils te fassent. Ne blesse pas les autres avec ce qui te fait toi-même souffrir. Ne fais pas autrui ce que vous voudriez pas que l'on vous fasse. Et dans le Mahabharata, pour en Inde cette fois-ci, il dit on ne doit pas se comporter avec les autres d'une manière qui nous répugne nous-mêmes. Et je me suis dit, en fait, toutes les religions en parlent, mais pas tout à fait. Parce que maintenant, est-ce que c'est possible de regarder la version chrétienne ? Regardez la version chrétienne. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est quoi la différence ? Alors, remontre, si possible, Confucius ou Bouddha. Regardez, pour que tout le monde ait le temps de comprendre, le PowerPoint, Confucius, Bouddha, ils ont tous une même formulation. Ne faites pas. Voilà, Jésus est positif. Et ça va beaucoup plus loin. Parce que tous les autres, c'est une règle de morale qui régit les rapports en société. Si tu tues ton voisin, son cousin, son fils, son beau-père risquent de te tuer, donc ne le fais pas. Et finalement, c'est juste du bon sens et de la sagesse. Tous les hommes ont du bon sens et de la sagesse parce que Dieu est un Dieu qui a donné à l'homme une certaine forme de sagesse, la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal t'amène logiquement à dire, si je fais le mal à l'autre, il y a un risque pour ma vie, il y a un risque pour les miens, il y a un risque de réciprocité négative, vous voyez ? Et donc, ce qui peut vous dissuader, ce qui peut faire que peut-être des personnes qui ne sont complètement athées se comportent bien, c'est peut-être la peur de souffrir en retour, ou tout simplement quand même la compassion, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne veux pas que l'autre souffre ce que moi, je n'aimerais pas souffrir. Mais on est dans le négatif, on est dans le domaine de évite, abstiens-toi. Vous voyez, ça c'est les religions. Toutes les religions, c'est abstiens-toi de quelque chose. C'est pour ça que les religions, bien les commandements. Et quand vous lisez même l'Ancien Testament, il y a plein de abstiens-toi de faire ça. Mange pas ceci, ne fais pas cela. Abstiens-toi de prendre la femme de ton voisin, tu commettrais un adultère. Abstiens-toi de manger du porc parce que ce n'est pas bon. Voilà, et abstiens-toi. Et Jésus va beaucoup plus loin. Lui, il dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Alors, je vous demande, qu'est-ce qu'il faut leur faire ? Ah oui, mais attendez, ça veut dire quoi du bien ? Ça veut dire que tout d'un coup, vous avez un champ du possible qui est illimité. Parce que ça veut dire que je dois aimer l'autre de tous mes rêves. Donc c'est-à-dire que pour être à la hauteur de Jésus, j'essaye de faire à l'autre ce que je rêverais qu'on me fasse à moi. J'essaye de prendre soin de l'autre comme si c'était l'autre qui prenait soin de mes enfants. Et donc vous commencez à rentrer dans une spirale de bénédiction. Alors on va lire maintenant le texte qui est avant et le texte qui est après, dans Luc 6. Luc 6, à partir du verset 27. Luc 6, verset 27. Vous savez que c'est juste après le sermon sur la montagne. Si vous le retrouvez, vous pouvez le retrouver aussi dans l'évangile de Matthieu, il y est aussi, dans Matthieu 5. Juste après le sermon sur la montagne, quand il dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », etc. Il inverse tout, Jésus. « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine. » Vous voyez ce que je disais de spirale de bénédiction. « Sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous tous ceux qui te demandent, non pas lui quand même, c'est dire si, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Il y a très 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 peu d'amen parce qu'il y a beaucoup de culpabilité là. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Bon, une simple morale te suffit à mener la vie que tu es en train de mener. Si tu n'aimes que tes proches et que les gens qui sont corrects avec toi, tu n'as rien de plus que ton collègue, tu n'as rien de plus que ta collègue. Et quand tu leur parleras de Jésus, ils diront « moi aussi ». Et lorsque tu diras « moi Jésus, il a changé ma vie », dis « ben moi aussi, mais sans Jésus. Mes valeurs m'ont changé ma vie. » Il va plus loin après. Il dit « si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les banquiers de New York aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espoir de retour. Aïe, 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 tous les capitalistes sont morts là. Alors, votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Oh là 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 là, c'est haut, hein? Vous savez la différence, vraiment. Je vous donne un autre exemple. J'ai des collègues, je viens juste d'arrêter l'enseignement, mais il y a encore quelques mois, j'étais en salle de prof et j'avais des collègues qui, on va parler vrai, qui votent très à gauche, solidarité, très communiste, très dans l'idée, l'humanisme peut sauver le monde, les valeurs de solidarité peuvent changer la terre et tout ça. Moi, je suis très impressionné par leur beau slogan et tout. Il est délégué syndical, il est impliqué, il revendique les droits, il dit « moi je suis pour l'éducation gratuite », tout ça, mais moi aussi, c'est superbe. Et il est très, 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 très impliqué à gauche. Et puis, un jour, en creusant un peu, on lui proposait une classe d'élèves en grande difficulté. La classe que personne ne veut. Et je me suis dit « ah, avec son grand cœur, il va se proposer, vous voyez ». Il a pris l'école en classe préparatoire. Je dis, d'accord. Mais à mon avis, si je prends le profil social des élèves en classe préparatoire et le profil social des élèves de cette classe dont personne ne veut parce que c'est des élèves en grande difficulté qui ont redoublé plusieurs fois, je ne comprends pas où sont tes valeurs de solidarité. Je ne comprends pas où est ton grand cœur pour l'éducation gratuite, etc., et l'égalité, la chance de tous. Parce que vous voyez, il y a un moment où il peut avoir des valeurs dans sa tête, en théorie, mais dans ses choix personnels, il ne donne pas des cours gratuits à la maison. Alors c'est facile de dire, oui, mais c'est à l'État de le faire. Ben, c'est facile, et ça restera dans l'état des choses. Hein. L'État, c'est les autres. Hein. Donc il y a un moment où ça demande une révolution, non pas du système, mais une révolution des cœurs. Une révolution d'individu par individu qui change. Et c'est beaucoup plus dur à mettre en place, parce que ça veut dire que chacun capitule devant le fait de dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne », qui dit « Seigneur, non pas mes pulsions et mes besoins, mais je veux que le Saint-Esprit fasse grandir en moi le fruit de l'Esprit ». Et ça prend du temps, parce que faire pousser un arbre, c'est long. Parce que qu'un fruit puisse arriver à maturité, qu'il soit bon, c'est long. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. C'est extraordinaire. Mais ça met du temps. Et vous voyez, moi, c'est ce syndicaliste que j'aime beaucoup par ailleurs. Je dis, aïe, entre son discours et sa pratique, c'est un religieux en fait. c'est un religieux. Il a la bonne loi, mais il n'a pas la bonne pratique. Vous savez pourquoi ? Parce que quand Jésus dit, est-ce que c'est possible de remettre encore une fois juste le texte initial, faites aux autres voilà, ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Regardez, vous avez entendu parler de Galilée ? Vous savez pourquoi Galilée a dû abjurer un jour ? Parce qu'il avait annoncé quelque chose, énoncé une règle très très différente. Il avait énoncé que la terre n'était pas le centre du monde. Et pour ça, il a été passé en procès par les religieux de l'époque. Parce qu'il avait osé dire que la terre n'était pas le centre du monde. Et moi je vous dis qu'on ne s'en sortira jamais tant que ça sera vous qui serez le centre du monde. Tant que tu et que moi je suis au centre du monde, le monde ne tournera pas rond. Il y a un moment où il a dit, mais pourtant, c'est bien autour du soleil, c'est la notion de révolution copernicienne. Copernic qui après a affirmé, puis après tous les grands savants, Newton, etc., ont confirmé. Bien sûr, c'était ça. C'était le soleil qui était le pôle sur lequel les autres galaxies, les autres étoiles tournent. Et je suis très impressionné par des personnes qui arrivent à se détacher pour dire c'est l'autre qui est le centre et plus moi. Regardez ce que dit Jésus. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Tous les autres, ils ne fais pas toi ce que tu craindrais que. Donc en fait, c'est centré sur toi. Tu ne fais pas de mal à l'autre dans les autres philosophies. Tu ne fais pas de mal à l'autre parce que tu as peur que tu prennes un retour. Ou parce que ça, par rapport à toi-même, c'est des choses dont tu as souffert. Donc tu ne veux pas qu'ils vivent ça. Mais c'est pareil. Mais à l'idée, tout vient de tes tripes à toi. Ton monde, c'est toi. Et ce que Jésus dit, décentrez, faites une révolution copernicienne. Mettez l'autre au centre du monde. Et du coup, ben, tu ne le vivras plus aussi mal. C'est super compliqué ce que je suis en train de dire ce matin, à vivre en tout cas. C'est-à-dire que si jamais c'est ce soldat romain qui est en train de t'obliger à faire un kilomètre, à porter son barda, c'est invivable si tu penses à toi-même. Mais ça devient supportable si tu penses à lui et que tu le mets au centre du monde. C'est invivable de pouvoir donner, enfin, ne pas réclamer celui qui t'a pris ta voiture. Il t'a volé ta voiture, il est parti avec ta Mégane, là. T'es fou de rage. Tu dis, mais quel voleur, quelle sale mentalité. Mais Jésus dit, n'exige pas qu'il te rende la Mégane. Comment ça, Seigneur ? Ma belle Mégane blanche. C'est trop haut pour moi, Seigneur, peut-être. C'est trop haut pour toi. Mais vous voyez, parce que vous restez, tant que c'est vous au centre du monde, vous ne pouvez pas le supporter. Si vous regardez à vos émotions, si vous regardez à combien vous a coûté la Mégane, et le crédit Cofidis qui reste sur la Mégane, qui eux ne vont pas vous faire le cadeau que vous vous êtes en train de faire, c'est insupportable. Parce que vous êtes en train d'analyser vos sentiments, vous êtes en train d'analyser vos émotions, votre souffrance, votre crédit, votre portefeuille, vos enfants, votre conjoint. Vous, et vous vivrez mal. Et Jésus dit, mettez les autres au centre du monde. Toutes les religions disent, faites du bien. Tous ceux qui sont proches de Dieu le font. Et c'est pas pareil. Tous ceux qui ont une valeur morale, une religion, disent « faites le bien », mais ceux qui sont proches de Dieu le font. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans 1 Jean 4 au verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, hein ? Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Et voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. C'est l'esprit qui va vous rendre meilleur. Parce que votre sale caractère, vous ne le changerez pas comme ça. Hein, vous ne le changerez pas comme ça. C'est impossible de faire cette révolution copernicienne, de mettre l'autre en face si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous allez essayer. Il y en a qui ont donné leur vie. Il y en a qui ont donné leur vie pour essayer de changer l'Union soviétique en 1917. Et ils sont finis au goulag, certains. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient changer le monde et qu'il y a l'international socialisme allait changer les choses. Un jour, les mêmes dirigeants comme Staline se sont retournés contre eux et les ont envoyés au goulag. Et là, vous devenez fous parce que vous dites « Mais j'ai donné ma vie pour essayer de changer, pour qu'il y ait plus de justice, ça ne sert à rien. » J'ai du respect pour ces êtres humains qui ont essayé de changer les choses avec tout leur humanisme et tout leur grand cœur. Mais je crois au rôle du Saint-Esprit. Je crois au fait que le Saint-Esprit change vraiment quelqu'un. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Et si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Car Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici, c'est tellement bon, il n'y a pas besoin de prêcher après ça. Hein. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi vous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Vous voyez, ça, il est en train de critiquer, même si c'est correct, la morale humaine. Et il dit, il y a mieux là. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, et c'est pour ça que je voulais aller jusqu'au bout. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le moteur qui te permet de changer de monde, c'est ton amour pour Dieu. Le moteur qui te permet de changer de vie, c'est le Saint-Esprit qui te fait ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est le seul moteur qui te rendra crédible. Crédible. Ne va pas devant tes collègues avec une phrase toute faite en jouant aux petits chrétiens. Si tu ne l'es pas, ça sonnera faux. Et moi, en tant que pasteur, je suis tout le temps sur le grill. Parce que vous voyez votre pasteur. Et vous voyez aussi quand je réagis mal. Et du coup, je suis obligatoirement transparent devant vous. Si je suis un pasteur qui me fait servir et qui donne que des ordres à tout le monde, et si je ne mets pas la main à la pâte et si je n'aime pas les autres, et un jour, vous allez me dire, pasteur, vis ce que tu prêches et après tu pourras le prêcher. Et c'est vrai à tous les niveaux de l'Église. Aime d'abord, aime ensuite. Et si tu veux vraiment ressembler à Dieu, eh ben, aime complètement. Et il n'y a pas d'autre commandement. Vous rappelez ce jeune homme riche ? Il vient vers Jésus parce que c'est juste là, lorsque Jean dit, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné, mais c'est ce que le jeune homme riche est venu demander. Et un autre pharisien, une fois que Jésus avait bloqué les, les, Les Sadducéens, un pharisien est venu en disant, Seigneur, quel est le plus grand des commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais regardez un petit peu. Est-ce que c'est possible juste de regarder dans Matthieu 22 au verset 36 ? On arrive bientôt à la fin. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et regardez le verset 39. Il y en a un second qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Pourquoi semblable ? Si c'était le numéro 1. Ça veut dire qu'il y a un prime. Et c'est-à-dire que le commandement d'aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, il est complètement indissociable du fait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas séparer les deux. À chaque fois que tu t'éloignes de ça, tu t'éloignes du commandement d'aimer Dieu. Alors concrètement, je vais vous donner une petite application qui est très 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 stressante pour nous les chrétiens évangéliques entre qu'est-ce qu'est le respect de la loi de Dieu et le respect de cet amour. Quand vous avez dans votre famille quelqu'un qui est en situation de péché, oh là 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 là, des fois la prise de tête que ça peut être, parce que quelle doit être mon attitude ? Je vous donne des exemples. Comment je fais si mon enfant vit avec quelqu'un avant le mariage et qu'ils veulent venir chez moi ? Est-ce que je dois l'accueillir, pas l'accueillir ? J'ai quelqu'un dans ma famille qui est gay, est-ce que je dois lui parler ? Qu'est-ce que je dois lui interdire de venir dans la maison ? J'ai ma fille qui se marie avec un musulman. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. J'y vais ou j'y vais pas. Et là, c'est tout d'un coup, vous voyez, là, ça devient très, très compliqué. Parce que si je vous demande quel est votre avis, là, il y aura autant d'avis que de personnes. Certains vont être plus durs envers les gays, d'autres vont être plus durs envers les musulmans, d'autres vont être plus durs envers ceci. Chacun, vous allez avoir votre échelle de valeur. Comment vous faites là ? Ben, je vais vous dire vraiment, laissez le Saint-Esprit conduire vos réactions. Mettez de côté votre culture, même votre religion, même si elle est bonne. Hein. Je suis évangélique, j'assume. Hein. Mais vraiment, mettons-nous devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Et vous savez pas quoi ? Je crois que c'est au cas par cas. Je crois que c'est au cas par cas. Parce que ça dépend tellement de choses, ça dépend de la mentalité. Si la personne vient pour provoquer ou pas, si la personne reconnaît qu'elle fait une erreur ou pas, si la personne est là juste pour vous tester ou pas. Dans tous les cas, la seule règle que je vous dirais, c'est ne faites rien qui pourrait un jour vous être reproché comme étant celui ou celle qui a jugé sans aimer. C'est la seule règle. Parce qu'il y a un moment où justement, on peut dire, ah, attention, aimer, oui, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et dans l'évangile, justement, Jésus rajoute, parce qu'il savait très bien les excuses qu'on allait mettre par rapport au fait d'aimer ou pas. Et Jésus dit, ne vous posez pas en juge de l'autre. Une autre version, c'est ne jugez pas afin de ne pas être vous-même juger. Et il y a un moment où ça, c'est difficile à comprendre parce que, regardez, dans Luc 6, au verset 37, ne vous posez pas en juge d'autrui, vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Donnez et l'on vous recevra. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Et vous voyez, on a toujours envie de dire, Seigneur, quelles sont les situations dans lesquelles je n'ai pas besoin d'aimer. Là, je reviens sur situation générale. Quand même, il m'a pris la Twingo. C'est pas possible. Elle me devait tant d'argent. C'est pas possible. Vu comment il m'a parlé au téléphone, c'est pas possible. Et du coup, vous allez mettre vos blocages en disant, là, il a franchi la ligne qu'il ne fallait pas dépasser. Et moi, je te demande, mais qui c'est qui a édicté la ligne? Qui c'est qui a dit qu'était la ligne, là? C'est Dieu qui t'a mis la ligne ou pas? Parce que, attention, tu seras jugé. Ce que ça veut dire, ce texte, c'est que tu seras jugé avec la même ligne que tu as appliquée pour les autres. Tu t'es mis en juge. Le juge, il met des lignes. Hein. C'est normal, c'est la vie sur la terre. Le juge, il va dire, ah, ça, c'est un délit. Ça, ça sera jugé comme un crime. Ça, c'est juste une contravention. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que si jamais je suis à 49 km/h au-dessus de la limite de vitesse, ça reste une contravention, si j'ai bien compris ? Et si je passe à 50, ça devient un délit. Pour un petit kilomètre ! J'ai franchi la ligne. C'est rien, un juge. Là, pour le coup, là, c'est la loi française, les députés qui ont voté, c'est la ligne. Vous la franchissez, mais attention, ce que dit Jésus, c'est méfiez-vous des lignes. Parce que quand c'est vous qui mettez la ligne, on utilisera la même ligne pour vous. Qui on utilisera la même ligne. Il est en train de parler du ciel, il est en train de parler du royaume de Dieu. Vous serez jugé avec la même mesure avec laquelle vous avez jugé les autres. Ça doit être trop dur ce matin. Il y a une deuxième excuse. Je termine avec ça. Une deuxième excuse. On va dire, Seigneur, ce n'est pas possible parce que même si j'aime un peu, ça ne va pas changer beaucoup. Vous avez la première excuse, celle que je viens d'éliminer, c'est l'excuse du petit juge qui dit, Seigneur, là, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Jésus dit, je suis désolé, même s'il prend ton manteau, laisse-le. S'il te gifle sur la joue droite, laisse-le. Oh, Seigneur, quand même. Ne te pose pas en juge. Deuxième chose, Seigneur, mais si je fais du bien, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Vous êtes rendu compte, franchement, quand vous faites du bien, est-ce que ça change complètement les situations? Des fois, il y a une personne, vous l'avez aidée déjà 10 fois. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose de l'aider une 11e fois? Franchement. On se dit, oh non, mais là, ça ne sert à rien. Puis même dans l'église, allez, honnêtement, si jamais je me lève le matin et que je vais aller servir un café, est-ce que franchement, ce petit croissant, ce petit café va changer quelque chose? Est-ce que franchement, le fait de donner tout mon samedi soir à préparer une leçon d'école du dimanche, est-ce que ça va vraiment changer la vie d'un enfant demain? De toute manière, à l'école, il entend tellement de grossièreté que je lutte contre eux, à tellement à contre-courant que ça ne sert à rien. Et puis au fait, mais pourquoi je vais aller prier? Pourquoi je vais essayer de dire du bien des autres, de bénir les autres dans ma prière? Ça ne va peut-être rien changer. Et donc, le monde et la mentalité de ce monde, c'est de dire, mais tu ne sers à rien, tu n'es qu'une petite goutte d'eau. Tu n'es qu'une petite goutte d'eau. C'est qu'un petit verre d'eau, ce que tu fais. Un tout petit, petit verre d'eau. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger, t'avons-nous accueilli, nu, t'avons-nous vêtu, malade ou prisonnier, nous sommes venus te rendre visite. » Ils ne savaient même pas qu'ils avaient visité à l'interco une personne. Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Oh, oh, oh. Au ciel, alors qu'on va passer devant le trône de Dieu et qu'on va être mis d'un côté, il dit qu'il va séparer les uns des autres. Hein. Ça va faire bizarre. Hein. Ça va faire très bizarre. Tout d'un coup, tu vas revoir un petit garçon, une petite fille que tu as vu à l'école du dimanche il y a super longtemps. Et Jésus va dire, c'était moi qui étais là. Et c'est à moi que tu l'as fait. Et je me suis posé une question de fou. J'ai dit, imaginez là, il est 10h08. À 10h09, Dieu vient et visite l'église. J'étais juste ce matin là. Imaginez, Dieu en personne, je veux dire. Comment vous vivez ça? Moi, je suis en stress total. Parce que je suis en train de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il va penser du message? Le gars là sono. Est-ce que Dieu va trouver que le son est trop fort ou pas assez fort? Ceux qui géraient les clims, l'équipe d'accueil, là, Seigneur Jésus, est-ce que ça va être trop? La clim, ça te va? La température, c'est bon? Imaginez que c'est Dieu et qu'il ait mis Jésus à l'école du dimanche. La mono d'école du dimanche, il y a Jésus qui arrive dans les rangs. Alors on va parler sur Zachée ce matin. Je suis sûr qu'il y en a plein qui diraient, Jésus, tu veux pas que je fasse quelque chose pour toi? Non, il n'y en a pas qui seraient là en train de se dire, allez, si Jésus venait s'asseoir à côté de vous, vous n'auriez pas envie de lui faire juste plaisir? Et bien, c'est tous les dimanches que Dieu vous le permet de le faire. En fait, vous avez Jésus à côté de vous, c'est votre voisin. Il a dit à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères. Et pas le meilleur, hein? Pas celui que tout le monde dit, ah, lui, c'est un homme de Dieu, c'est une femme. Au moindre de mes frères. Donc le plus tordu d'entre nous. Parce qu'il est venu et que c'est un frère de Jésus, il mérite le meilleur. Waouh! Moi, je rends hommage à toutes ces personnes qui travaillent comme des fous, comme des folles, pour la maison de Dieu, pour que je sois bien dedans, pour que tu sois bien dedans. Une fois, je suis venu très tard un dimanche soir et je voyais Jocelyne Raisin en train de bosser comme une folle. Et puis, le sol était tellement beau, était tellement propre. Alors, j'avais vu dans quel état il était avant. Et je lui dis, mais Seigneur, combien de temps elle a dû nettoyer ce sol pour qu'il soit plus beau même que si c'était chez elle? Parce que cette personne avait décidé que la maison de Dieu méritait le meilleur, comme si Jésus venait ce dimanche soir-là visiter l'église. C'est ça le niveau. Vous voyez, c'est extraordinaire. La personne qui s'occupe des mariages dans cette église et qui travaille pendant des heures, c'est une personne qui est célibataire. Et vous croyez que ça ne doit pas être difficile des fois de travailler jusqu'à minuit, une heure, deux heures des fois pour préparer la déco dans cette salle quand elle sait que c'est le mariage encore d'une autre. Ça, c'est aimer. Ça, c'est aimer vraiment. C'est aimer, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent. Bon, on ferme les yeux ensemble, Seigneur. Alléluia, Jésus. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Alléluia Jésus. On va fermer les yeux ensemble. Tu pries, tu demandes à Dieu de changer ton caractère. Mais pas qu'au sujet de toi, donne-lui plus que ton caractère, donne-lui de décentrer ton monde. Jésus a décentré son monde pour venir sur la terre. Il habitait le ciel, il a tout décentré par amour. Il a quitté le ciel de gloire pour venir dans une petite terre où des individus comme toi et moi n'avaient pas d'autre objectif que de le faire souffrir.
Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi la grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie, résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, je t'aime.
Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons aimer notre prochain. Nous vivons.